Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série consacrée au 7e épisode de la 3e saison de Mandalorian. Épisode qui s'appelle The Spies. J'imagine qu'en français, c'est Les Espions. C'est ça. Ce soir, je suis accompagné de Sébastien. Salut Sam, ça va?
Ça va comme ça va.
Juliane n'est pas là ce soir. Elle est de saut étant... Toujours à Londres, je crois, ou elle revient de Londres suite à la Star Wars Celebration. Donc, elle mérite son repos. Ce soir, nous allons discuter de l'épisode. Juste avant, Seb, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais mentionner, un petit WhatsApp ou quelque chose comme ça.
Très rapidement, je tiens à mentionner le passage dans la force de Angie Mayhew, la femme de Peter Mayhew, il y a quelques jours. Je mentionne ça parce que... J'ai eu l'honneur d'être semi-invité à ses funérailles puis de pouvoir y assister. Et ça m'a fait réaliser à quel point cette personne-là était importante pour tout le développement que j'ai eu dans le fandom depuis que je suis rentré vraiment profondément dedans. Donc, merci beaucoup, Angie, puis que la force soit avec toi. Et maintenant, tu es avec ton Peter, tu es avec ton Chewbacca, donc on est content pour toi. Donc, voilà, c'est ça. Je tenais juste à reconnaître la grandeur de cette petite personne qui en a fait tant puis qui nous a fait changer tant de choses sans même qu'on s'en rende compte. Donc, voilà.
Merci. Merci, Seb. Juste avant de commencer, on va juste saluer le monde qui sont dans le chat en ce moment. Donc, nous avons Merciou, Maître Manu, Tibiri Mini, L'Oranger, Maître Manu, et Alucard. Donc, bonsoir à tous. On y va pour ce chapitre 23 de Mandalorian, donc le 7e épisode de la 3e saison, écrit par Jon Favreau et Dave Filoni et réalisé par Rick Famuyiwa. J'ai toujours la difficulté à le prononcer. C'est aussi lui qui va réaliser le dernier épisode, celui de la semaine prochaine. Donc, réalisateur très fiable. Hein, on le voit depuis 3 saisons. Ses épisodes sont très bien réalisés. Et ce fut que celui d'aujourd'hui aussi. Alors, on va y aller avec nos commentaires généraux sur l'épisode pour ensuite aller avec les images et qu'est-ce que nous avons remarqué, qu'est-ce qu'on veut discuter. Si vous êtes fan de l'univers étendu, de l'univers légende, il y a quelques petits clins d'œil. Si vous êtes fan de la postlogie, il y a quelques clins d'œil aussi. Il y en a pour tous, honnêtement, il y en a pour tous dans cet épisode. Seb, je vais te laisser commencer tes impressions de l'épisode.
Je vous mentirai pas, ayant suivi la célébration tout le week-end, on a une partie de l'équipe qui a pu assister au visionnement de cet épisode-là pendant la célébration le vendredi. Donc, j'avais beaucoup d'espoir envers l'incroyable phénomène de cet épisode-là. Et je me suis peut-être un petit peu trop hypé parce que finalement, après l'avoir écouté, j'ai comme fait « c'est tout ». J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir l'intégration de plusieurs clins d'œil, la canonisation, on va dire, aussi de plusieurs personnages légendes, ou semi-légendes, en tout cas, peu importe. Maintenant, dans le live action, c'est canonisé, donc je suis quand même surpris un peu de certaines de ces choses-là. Dans le fond, c'est ça, c'est comme je regarde le développement de l'histoire au niveau du Mandoverse puis tout ça, puis je suis comme... C'est peut-être un petit peu poussé, mais bon, on va voir où ça s'en va puis qu'est-ce qui va en ressortir, puis c'est ça. Il reste un épisode. Je trouve que c'est très peu pour faire beaucoup, même si on s'en va après ça dans Ahsoka, là, dans quelques mois. qui va définitivement sûrement jouer avec le dernier épisode. Là. J'ai quand même... J'aurais aimé ça, avoir au moins un autre 4 épisodes pour aller plus profondément dans certains des personnages, avoir un petit peu plus d'intrigue, là, un peu, tu sais, comme à la noire, là, Coruscant noir. Ça aurait été le fun. Là. Mais bon, c'est ça. On a ce qu'on a, donc voilà, c'est mon avis général sur l'épisode.
Je te rejoins là-dessus, surtout sur le fait que je suis le premier qui l'a dit. On a senti un manque d'urgence tout au long de la saison. Et là, ils ont comme essayé de tout mettre dans cet épisode-là. Là. C'est comme, ils ont condensé l'histoire. Puis c'est correct, ça a bien joué, ça a bien sorti, mais ça va peut-être trop vite comparativement à qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Exemple, si on prend l'épisode de la semaine dernière, c'était-tu vraiment nécessaire l'investigation sur les droïdes? T'sais, je pense qu'il y a des petites choses, puis je comprends, c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour les jeunes, c'est fait pour les adultes, c'est fait, je comprends, là, mais j'ai l'impression qu'ils ont été peut-être il y a des choses qu'ils ont mis qu'ils n'auraient peut-être pas dû mettre, puis là, j'ai l'impression que là, ça rush, comme on dit, là, à la fin, parce qu'on arrive, comme tu dis, c'est le dernier épisode la semaine prochaine, ouais. Et il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui restent à finir, mais bon. On va voir.
Mais
les deux, ils sont. Oui, vas-y.
Juste pour toucher sur l'histoire des droïdes de la semaine dernière, j'ai retrouvé l'image de Kathleen Kennedy avec les 48 titres de projets qui s'en venaient. Là. Puis en bas, à gauche, c'était Droids, a Disney Plus series. Fait que, tu sais, j'étais comme. Ce qu'on a vu la semaine dernière, là, c'était clairement un setup pour un spin-off de Droid live action. Fait que, tu sais, c'est The Further Adventures of DJ Rex. Là.
mais bon, j'ai l'épisode était quand même très bon. Le début était fort. Le milieu, c'est un peu plus lent. Ce qui est normal, parce que c'est là justement que, surtout entre les Mandaloriens, là, l'histoire se développe, hein, les différents clans qui se rencontrent, qui s'unissent pour reconquérir Mandalore. Mm-hmm. Et la fin c'était superbe, la fin c'était très bien. C'est ça. Donc,
je sais pas, moi ça m'a laissé sur ma faim. La fin m'a laissé sur ma faim.
La fin,
mais pas d'une façon comme cliffhanger, plus d'une façon comme. Mais je peux-tu avoir plus de contexte? Je peux-tu avoir, tu sais, comme une prise de contrôle quelconque de quelque chose? En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer.
Il y a des choses qui ne sont pas clairement expliquées. Puis ça, on le voit depuis le début de la saison. Exemple, l'attaque des TIE Interceptors sur le château de Bo-Katan, où quand justement Bo-Katan et Din Djarin essayent de s'échapper de cet endroit-là. Sont arrivés de nulle part. On n'a jamais vu le cruiser ou le Star Destroyer, à moins qu'ils soient équipés avec pour voyager dans l'hyperespace. Mais bon, quoique aussi, vu que c'est proche de Mandalore, hein, c'est supposé être proche de Mandalore, puis là, on a su que Gideon, sa base est dans Mandalore, donc peut-être que ça explique pourquoi que les TIE Interceptors ont été capables d'arriver si vite. Mais bon, c'est ça. Donc, en général, c'était bon. Il y a des concepts qui sont intéressants. Il y a des concepts qui sont comme... OK, je pense que c'est juste cool pour être cool. Mais ça donne vraiment envie de voir le dénouement de tout ça, de voir comment ça va finir. Et ça met la table pour ce qui s'en vient dans Ahsoka, dans la prochaine saison de Mando, mais aussi avec le film de Dave Filoni qui a été annoncé durant la célébration, qui va être un peu la Nouvelle République contre les restes de l'Empire. On s'approche pas mal de l'histoire de l'univers étendu. Hein, on pourrait s'en aller indirectement vers la trilogie de Tron. Indirectement, je dis bien.
Ouais.
Parce qu'on verra pas Luke, Han, puis tout ça dans le film. Ça, c'est je suis pas mal certain. Mais bon.
Ben, en général, ça puis toutes les rumeurs qu'on a entendues, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais aussi, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le piétinement de l'équipe de Filoni sur justement la trilogie Tron qu'on aime comme qu'elle est. Elle n'a pas besoin d'être modifiée. Puis on sait que Filoni est très bon pour faire le coup de rasmotte là-dessus sur ces choses-là. Donc, ouais, c'est ça.
Ben ça, il a appris de son mentor, là. De son mentor, de Jojo Kiss aussi, il s'en foutait carrément de l'univers étendu. On l'a vu. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Mais une chose est sûre, en tout cas, je ne sais pas pour ceux qui suivent les spoilers, mais jusqu'à présent, tous les spoilers qui avaient été dévoilés, les rumeurs sur la troisième saison, s'avèrent vrai. Ça va être pas mal tous vrai, jusqu'au design des Stormtroopers de Moff Gideon, les Manto Troopers, puis les Praetorian. Je suis toujours là avec la difficulté.
Praetorian.
Merci. Praetorian Guards. On avait vu des designs, donc il y avait des concepts qui avaient fuité. C'est exactement la même chose. C'est ça. Très bon épisode en général qui met la table pour la finale. Même s'il y a des petites choses qui vont peut-être un peu trop rapidement. C'est ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va y aller avec des images et voir discuter de ce qui nous a attiré, ce qu'on a un peu moins aimé dans l'épisode. Il va être le début qui commence sur Coruscant. On savait que Kane était louche. Hein, travaillait pas pour la Nouvelle République, ça c'était clair, là. Mm-hmm. Donc, on apprend qu'elle travaille vraiment pour Moff Gideon. Donc, elle se promène sur Coruscant, qui fait très Blade Runner. D'ailleurs, la partie qu'on voit, là.
C'est effectivement très... justement, tu sais, c'est là mon Coruscant noir. C'est Coruscant noir, là, ça fait très ça, là.
Oui. elle rencontre un probe droid qui la scanne et je savais pas qu'un probe droid pouvait se promener de même dans Coruscant sans que ça flague absolument rien, mais bon.
On s'entend que c'est ça, tu sais, c'est comme probe droid, puis là, elle s'identifie, puis c'est pas une petite bébite, là.
Non, c'est
comme Welcome to the Matrix.
C'est ça, c'est pas comme les petits droïdes que genre on avait dans le jeu Battlefront là, qu'on pouvait voir avec Aiden Versio. Là. C'est ça, ils sont petits droïdes qu'elle avait dans le dos.
Ouais, ouais, les BD1, là, comme.
Ouais, c'est ça. Fait que sinon, eux autres, c'est les vrais, là, les gros. Donc, puis avec la grosse lumière rouge, je veux dire, c'est ça frappe, là. T'sais, c'est... Mais bon.
Clairement, que ça s'en va dans le trafic, ça va frapper GF.
Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est là qu'on apprend que Moff Gideon est toujours vivant. On s'en doutait. Et on apprend aussi que c'est elle qui était responsable de l'attaque des pirates sur Nevarro. Mm-hmm. Ça faisait partie du plan de Moff Gideon. Plan qui a échoué, d'ailleurs. Puis c'est là que Moff Gideon apprend que les Mandalorians se sont unis et sont ensemble, et c'est eux autres qui ont vécu libéral. C'est ça, fait que là, quand on le voit de même, on le voit qu'il est dans une base, qu'il n'est pas dans un vaisseau, on voit les roches autour, mais on ne sait pas encore que c'est sur Mandalore.
Que c'est sur Mandalore, ouais.
Ouais, c'est ça, on le voit à la fin. C'est ça, Moff Gideon s'en va au Conseil de l'Ombre.
Mais ça d'ailleurs, j'en profite pour... on va montrer l'image, là. C'est le corridor d'entrée vers son espèce de salle de conférence qui est quand même, tu sais, comme particulièrement rappel Phantom Menace parce que les espèces de lasers rouges qui s'ouvrent. Puis là, on voit justement les nouveaux... Ça serait des nouveaux Dark Troopers. Ça serait pas comme des personnes, ça serait carrément des robots qu'on voit là,
de chaque côté. Mais c'est des personnes, parce qu'on les entend crier quand ils se font tuer par les Mandalorians.
Mais c'est ça que je comprends pas. Tu sais, il dit j'ai amélioré les Dark Troopers, maintenant ils sont faits avec du Beskar. C'est-tu comme, il veut-tu dire qu'il a fait des robots avec du Beskar en plus de ces troopers-là? Ou...
Non, c'est que moi, de ce que j'ai compris, c'est lui, son suit à lui, c'est Dark Trooper, parce que quand il marche, tu l'entends, c'est comme une machine qui marche.
Ouais.
C'est comme si... Il y a comme son armure l'aide à mieux performer, si on veut. Là. Il doit avoir de la robotique là-dedans. Là. Mais c'est ça, ouais, les Stormtroopers. Moi aussi, au début, je pensais que c'était des Dark Troopers. Mais quand ils se font tuer par les Mandalorians, ben, on les entend crier et tout, surtout quand ils se font jeter en bas de la falaise, ben, de la falaise.
Hein. Ouais.
Donc, c'est ça. Fait que là, Moff Gideon, il arrive dans le conseil. En anglais, c'est le Dark Shadow Council. Fait qu'en français, je ne sais pas si c'est quoi exactement la traduction.
Mais juste avant, oui. On voit qu'il passe devant des clones, des cylindres oui. de clonage.
Oui.
Donc, on voit qu'il est encore en développement de cette partie de l'histoire-là, là, tu sais.
Ouais.
Donc, ça fait quand même spécial de voir que, ah, mais OK, il est encore là-dessus, là, même si... Puis là, ben justement, c'est là qu'il arrive dans le fameux conseil, là, GF. Ouais. Je te laisse continuer, puis je vais retoucher là-dessus par la suite. Là.
Ouais, c'est ça. Donc, le Dark Shadow Council qu'on avait entendu parler dans la trilogie Aftermath. Hein? C'est de là que ça venait. Le conseil. Donc, il y a deux personnages qu'on connaît. Ceux qui ont suivi la légende, l'univers légende, il y avait le capitaine Pelion, qui était le bras droit de Tron dans l'univers légende, donc dans la trilogie de Tron. Qui était aussi lui qui était en charge des restes de l'Empire durant le Nouvel Ordre Jedi. Le voilà. Et toujours je ne sais pas pourquoi je l'imaginais exactement de même. Tu sais, quand on
ben, toutes les images qu'on a toujours vues de
ouais, c'est ça.
Baylon, c'était ça. Là.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que au moins, ils sont restés fidèles à son look. Fait qu'il faut leur donner ça.
Ça, on va leur dire, c'est du fan service.
Ouais, exactement.
Pur et dur.
Ouais. Et le deuxième personnage aussi qu'on a vu, ben, du moins qu'on a lu dans la trilogie Aftermath, c'est le commandant Hux. Donc, le père du général Hux qu'on voit dans la postlogie. Le commandant Hux qui est joué par Brian Gleeson, qui est le frère de Donald Gleeson. Donald Gleeson qui est celui qui joue le général Hux dans la postlogie. Lui est en charge du projet Necromancer. Donc, je veux dire juste le titre, on sait exactement sur quoi il travaille. le projet Necromancer pour l'Empereur. Donc, c'est ramener l'Empereur. C'est un projet de clonage aussi. Mm-hmm. Une chose que j'ai trouvé drôle, c'est que je comprends que chaque groupe fait ses propres choses et ils s'unissent. Mais voilà, on voit ici, merci, le commandant Hux. Mais une des choses que j'ai trouvées un peu weird, c'est que lui est en charge du projet Necromancer, puis tout le monde est au courant de ça. Puis là, t'as Moff Gideon que lui fait son propre projet de clonage, parce que lui, il avait le Dr. Passion. Mm-hmm. Comme tu as dit, comme on a vu plus tôt, on l'a vu marcher devant des cylindres de clonage.
Exact.
Puis lui, il a utilisé Grogu pour faire le clonage. Donc, c'est quoi qu'il essayait de faire? Essayes-tu de c'est une course, puis lui, il essaie de gagner la course de clonage, d'être capable de cloner l'Empereur? Ou... Parce que c'est clairement, là, il fait pas partie du projet Necromancer. Là. Dans la discussion qu'ils ont, là, c'est totalement autre chose. Ouais, c'est ça.
Je veux pas... Ouais. C'est dur de parler de Necromancer sans spoiler quelque chose d'autre. Fait que je préfère éviter le sujet trop en profondeur, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va réentendre dans un futur proche. Puis que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on pense que c'est tout de suite.
Ben, c'est projet, du clonage, en tout cas. On sait que parce qu'ils disent que c'est un projet de clonage.
Puis c'est ça, c'est qu'ils parlent de, tu sais, justement, est-ce que la technologie de Pershing a été récupérée? Puis Gideon, il dit, ah non, elle a été perdue. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, si tu essaies de faire avancer tes choses, clairement, tu ne vas pas faire exprès de perdre cette technologie-là. T'sais. Fait qu'il y a comme une espèce de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Puis justement, le fait qu'on voit des cylindres de clonage, est-ce qu'il essaye de se cloner lui-même? Est-ce qu'il essayait de mélanger des clones de lui-même avec des midi-chloriens de gros goût pour avoir la force, puis être capable de contrôler la force en plus de d'être au sein de l'Empire, donc pouvoir potentiellement prendre la place de l'Empereur. Si tu sais quelque chose d'aussi compliqué que ça, vers quoi on s'en va, je serais même pas surpris. En toute franchise, le rendu là, c'est, je trouve que c'est une théorie qui se tient très bien vu le personnage.
Oui, oui, oui. Pelléon, que lui, rappelle que le seul qui peut unir l'armée impériale, de ce qui reste de l'armée impériale, c'est Thrawn. Puis c'est là que Gideon dit, mais il est où, Thrawn? Il n'est pas là, là. Pourquoi il ne vient pas au conseil? Donc, ce qui laisse sous-entendre que soit qu'il n'est pas encore revenu de où ce qui est, ou ils ne l'ont pas trouvé, du moins encore, ou Pelléon le garde, ou c'est Thrawn qui reste, qui essaie de rester caché, ou je ne sais pas trop, puis qu'on va le voir apparaître. Donc, puis on voit aussi que Gideon n'est pas un fan de Thrawn.
Ouais, clairement.
Moff Gideon, lui, il se dit, ben écoute, si Thrawn n'est pas là, moi, je vais me charger de l'armée, puis je vais m'occuper de l'Empire. Puis là,
c'est drôle de voir. Ouais, c'est drôle de voir justement à quel point Parlian est comme, soyons prudents, faut pas qu'on fasse de gros mouvements pour que la Nouvelle République soit pas au courant qu'il reste autant de gens qui sont pour l'Empire, puis qu'on a autant de remnants, là, t'sais, impériaux partout dans la galaxie. Là.
Exact. Donc, le plan Gideon, c'est justement d'éliminer les Mandaloriens. C'est ça. Donc, c'est honnêtement, c'était vraiment... J'ai trouvé super cool cette scène-là. C'était le fun. Ça plug l'univers étendu, ça plug la postlogie avec Hux, mais aussi ce que demande Gideon, hein, il veut avoir des TIE Bomber.
Ça plug l'oncle fétide dans Star Wars aussi.
Oui, oui, oui. On ne sait pas c'est qui lui, mais oui, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, il demande les TIE Bomber, mais il demande aussi les Praetorian Guards. Yeah, les Praetorian Guards. Praetorian Guards, man.
Praetorian.
Bon, écoute, un jour, je vais être capable de le dire comme il faut. Praetorian.
Praetorian.
Praetorian, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on le voit que, tu sais, on s'en doutait depuis le début là, qu'on savait qu'il faisait du clonage, qu'il travaillait sur le clonage de l'Empereur, mais là, c'est clairement. Ben, du moins, c'est ce qu'il laisse sous-entendre que c'est ce qu'il travaille en ce moment, le clonage de l'Empereur. Ensuite, on retourne sur Nevarro, où on voit Greef Karga et son droïde qui commence à paniquer parce qu'il voit des vaisseaux impériaux. Non, ce que lui, il appelle une navette impériale, qui est dans le fond un light cruiser. Là. Il y a une navette impériale qui s'approche de la surface. Elle est grosse, ta navette, là, mon homme. Là. Puis, c'est ça. Fait que Greef Karga, on voit le logo mandalorien sous le vaisseau. Donc, c'est Bo-Katan qui revient avec Axe Wolf. C'est ça son nom. Pas les Death Watch, les chiens qui ont changé de nom. Là. C'est ça. Donc, avec ce clan mandalorien. Et le but,
Pas les Night Owl. Parce que les Death Watch, ça aurait été les
autres. Ah oui, ça aurait été l'autre. Ouais, c'est ça, excuse, t'as raison. C'est ça. Ouais. Fait que, ouais. Je sais pas, en tout cas, c'est quelle faction, là, mais le but, c'est de retourner sur Mandalore.
Quand même, une batch, là. C'est une bonne flotte, là. T'sais, c'est pas...
Ah ouais, c'est ça.
Elle a pas récupéré n'importe quoi, là, beau, là. Elle a fait un bon travail.
Ouais, parce que, écoute, c'est quelques croiseurs impériaux, là, qu'elle a là-dedans, là. Elle a quoi, deux, trois... elle a un light carrier, elle a deux, trois transport carrier, là, tu sais, elle a.
Puis elle a maintenant un Paz Vizsla.
Oui, et voilà, Paz Vizsla. Avec son fils. Donc, c'est ça. Donc, les deux groupes s'unis pour aller sur Mandalore, explorer Mandalore, aller à la Grande Forge pour justement reprendre Mandalore. Et c'est ça. Là, après ça, on est arrivé dans une scène un peu hors contexte, si on peut dire, avec Greef Karga qui dit à Din Djarin qu'il y a un cadeau pour lui. Qui est, dans le fond, c'est IG-11. Ah oui, premièrement, la bouteille de vin de Coruscant. Puis qui lui dit de ne pas l'ouvrir devant tout le monde parce que ça vient de Coruscant.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment rare. Fait que ouvre-la quand il y a moins de monde pour pouvoir en profiter correctement. Là.
Mais aussi, c'est ça, il offre un cadeau puis il lui demande de revenir justement au bureau de Greef Karga. Et c'est là qu'on voit que les. Qui ont refait un peu IG-11 pour qu'il soit comme un mec.
Un petit robot téléguidé.
Ouais, un petit robot téléguidé. Et il y en a que ça leur faisait penser à Krang dans Ninja Turtles. Il y en a d'autres, ça faisait penser, comme je disais, à un mec. C'est fait pour Grogu. Grogu qui essaye le IG-11. Din Djarin qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content. Il dit qu'il n'est pas prêt, qu'il est trop jeune.
C'est ça. De peser sur... Il y a deux boutons, là. Oui, non. Oui.
Écoute, c'est vraiment là, comme un enfant. Oui. C'est comme ta gueule.
Mais j'aime bien la manière que justement il y a de dire que Din Djarin a de faire ça. C'est comme ça marchera pas avec moi. Ça marchera pas pour moi, ça là.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, Grogu, c'est sûr qu'on va le voir se battre avec ça. Ça, c'est clair. Ça peut pas être autrement. On le voit pas dans cet épisode-ci, mais c'est sûr que la semaine prochaine, on va voir ça. Là. C'est ça. Donc, les Mandaloriens quittent pour Mandalore. Qui est quand
un
même.
C'est un petit moment comique avec Grogu, puis comme dans le marché, là, un peu à la Jar Jar Binks sur Tatooine dans l'épisode 1, là, avec le robot. Là.
Ouais, ouais.
Puis que tu commences à comprendre un peu qu'est-ce qu'il peut faire, mais ouais, c'est. une petite minute et demie d'épisode qui aurait pu être utilisé à d'autres choses, là, les amis. Là.
Ouais, ouais, ouais. Les Mandaloriens arrivent sur Mandalore. Ben, ils quittent, arrivent sur Mandalore et rencontrent. Une autre faction, dans le fond, qui était... c'était les Night Wolves, eux autres. Les Night Owls, je veux dire, right? C'était le groupe de Bo-Katan, parce qu'ils l'ont
connu. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, ils sont
ben
comme...
Ben oui, ils sont, sont comme... Êtes-vous dame Bo-Katan?
Ouais, c'est
là,
ça.
Là, c'est comme... Hein?
Donc, c'est comme des pirates. Moi, je trouvais cool le vaisseau, le genre de vaisseau pirate qu'ils ont...
Ben, c'est un genre de sail barge, dans le fond, là, carrément.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Puis, c'est ça. C'est particulier, là. C'est comme, tu les vois arriver de loin, puis là, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est d'autres Mandaloriens. OK, fait qu'il reste des Mandaloriens encore sur Mandalore. Mais ils habitent pas dans les ruines des villes de Mandalore.
Non, c'est ça. Eux autres, c'est comme s'ils étaient cachés. Eux autres, ils étaient cachés, mais ils étaient cachés sur la surface de Mandalore.
C'est ça, tu sais.
Puis on voit qu'ils ont beaucoup de blessés parce qu'on voit quand l'armurière regarde les blessés et tout, là, ils sont quand même entrés à piteux état, cette faction-là. Ouais. Il y en a peut-être 3-4 qui sont en forme, si on peut dire. Puis les autres sont tous blessés. Mm. C'est ça, l'armurière ramène les blessés dans le vaisseau. Ben.
Avant tout ça, en fait, là, c'est le grand moment où Bo-Katan explique qu'est-ce qui s'est passé.
Ah oui.
Avec Mandalore, puis pourquoi Gideon avait le Dark Saber, puis c'était plus elle qui l'avait à ce moment-là. Puis c'est là qu'on apprend un peu la trahison de Bo-Katan envers Mandalore, puis on le sent que ça la gruge intérieurement. Là. Puis même, c'est surprenant qu'elle décide d'en parler avec tout ce monde-là parce que ça leur donne juste des raisons pour lui foutre une...
Ouais, ben c'est ça. Ben, t'as raison parce que quand elle en a parlé, moi, j'étais là, man, il y en a un qui va la...
Il va la frapper.
Pas la frapper, mais qui va la... Tu sais, il va la défier.
Ben ouais.
Puis non, pas du tout. Ils sont restés là puis ils ont comme accepté ce qui est arrivé.
Parce qu'ils ont trouvé que c'était honorable pour elle d'essayer de sauver Mandalore parce que, justement, pendant la guerre de Mandalore contre l'Empire, ils sont arrivés à un moment où les ressources de Mandalore étaient tellement amoindries qu'ils étaient pour perdre contre l'Empire. Donc, pour que les Mandaloriens et la planète Mandalore puissent survivre. Bo-Katan a cédé la planète, si on veut, à Moff Gideon, en lui donnant le Darksaber. À condition qu'il abandonne toute guerre contre Mandalore et ses habitants, puis qui vivent comme en paix ou en harmonie avec eux, là, on va dire. Puis Moff Gideon, il a fait comme « Oui, ok, je vais faire ça. » Il a pris le Darksaber, finalement. Mais finalement, non, ça ne me tente pas. Puis il a décidé qu'il faisait exploser tout ce qu'il y avait sur la surface.
Ouais,
donc, c'est un moment très... très profond là, émotionnellement là, de cette émission-là. Puis, même si je peux comprendre qu'il y en a qui vont trouver que, tu sais, ça donne le ventre mou, là, pour citer un de nos collègues, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'émotionnellement très profond. Puis, ça rajoute justement du caractère à Bo-Katan. Puis, l'incroyable, je vais dire, amour qu'elle a pour les gens de sa planète pour les Mandaloriens. Puis qu'elle mérite sa position à cause de ça, justement.
Ouais, exact. Puis si ceux qui l'ont suivi depuis Clone Wars, ben, comme tu dis, ils voient à quel point qu'elle s'est toujours battue pour Mandalore, même si pendant une certaine période, elle a fait partie du Death Watch. Là. Elle a tout le temps voulu... C'était tout le temps pour Mandalore, puis le bien-être de Mandalore, puis son peuple et tout. Donc, t'as raison, t'as tout à fait raison là-dessus.
Puis justement, c'est juste après cette scène-là, il y a un petit moment entre elle et Din Djarin où, justement, elle ouvre son cœur un peu à Din encore. Tu sais, c'est comme, il y a comme la relation qui continue de s'exploiter entre les deux, là, puis de se développer entre ces deux-là. Puis ce qu'on comprend, c'est ça, c'est, tu sais, comme Din, il fait comme... Tu comprends pas, là, ce que tu as fait, c'était noble. Tu t'es fait avoir, c'était pas de ta faute. Tu voulais la meilleure des choses. Puis de l'avoir avoué en plus, ben, ça te donne du caractère, puis de l'honneur. Puis nous, on a beaucoup plus tendance à suivre l'honneur que les gens qui vont. Que le sabre en tant que tel, c'est ça.
Ouais.
Puis c'est vraiment comme une belle scène au final. Là, ouais.
Oui, exactement. Puis, c'est pour moi, là, c'est à partir de là que la série, on le savait, là, que le focus, c'était plus sur Din Djarin. Cette scène-là fait que le focus de la série change complètement. C'est Mandalore. Quand il dit, là, tu sais, je vais te servir, tu sais, je vais être à tes côtés juste à temps que, tu sais, qu'on a repris Mandalore et que. T'sais, que tout soit rétabli, ben, c'est là que tu vois que The Mandalorian, c'est plus la série de Din Djarin, c'est la série des Mandaloriens à Star. Pour moi, là, c'est ce que ça l'indique.
OK. Mais ça veut-tu dire que la saison 4, ça va être The Mandalorians?
Je sais pas. C'est comme The Last Jedi. Le monde voyait ça comme les derniers Jedi, mais dans le fond, c'était aussi le dernier Jedi, donc... c'est... On ne sait pas.
Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est justement, c'est le après son... Je vais vous servir à jamais. Puis là, ben, t'as le petit sourire sur le visage de Bo-Katan, là, qui est comme... OK, fait que dans le fond, tu sais, c'est comme Mojo reacquired. Là.
Ouais, c'est ça.
Un peu le même moment là, que dans Obi-Wan Kenobi, là, quand il se bat contre tous les Stormtroopers dans la base, là. Impérial, c'est un peu similaire à ça. Là, c'est...
c'est vrai.
Mojo Reaki.
Ensuite.
Puis après, ben là, c'est ça, justement. Ouais. C'est là qu'on voit la forgeronne, on va l'appeler comme ça, là, qui aide les Night Wolves à guérir leurs blessés. Puis les gens qui habitent justement dans sur une planète. Complètement déserte, désolue, où est-ce que c'est le bordel de survivre.
Mm-hmm.
Puis elle finit par dire, ouais, je pense que ils ont trop de blessés, eux autres. Là. Ça sert à rien qu'on essaie de faire quoi que ce soit avec eux. Ils vont juste nous ralentir. Puis les traiter ici, c'est pratiquement infaisable. Fait que ouais, je vais aller les traiter dans notre merveilleux croiseur qu'on a.
Ah ouais, parce que là, t'as un comme un... Une clé, un Med B qui appelle en anglais.
Ben oui, c'est ça. Puis C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose.
Vas-y.
Puis là, je sais que c'est du fanboy dream, là, mais je m'en fous. Tu sais, on parle de la relation entre Din Djarin et puis Bo-Katan, là. Mais la Forgeron puis Bo-Katan, là...
C'est pas sa sœur, c'est bien morte.
Mais je sais que c'est pas sa sœur.
OK, OK.
Justement, c'est ce qui fait que ça rend cette relation-là encore plus intéressante. Bref...
Ah. Ah,
tu sais, les Mandaloriens, c'est peut-être plus matriarcal qu'on s'y attend. On va dire ça comme ça.
Ouais.
Bref, c'est ma théorie complètement folle et ridicule de cet épisode-là. Quand j'ai vu la relation qui se développait entre ces deux personnages-là, j'ai fait comme... Hey, ça serait le fun si ça allait dans cette direction-là. Puis qu'on s'y attendait, mais vraiment pas du tout.
Ouais, ça se peut, écoute... Ça se peut. Ça aurait du sens aussi. La journée suivante, on voit Paz Vizsla et Axe Wolf qui jouent. Ça ressemble un peu à un jeu d'échecs. Et évidemment, chaque clan a ses propres règles du jeu.
J'ai plus l'impression que Axe Wolf est un mauvais perdant.
Il y a ça aussi. Mais tout ça finit par un duel entre Paz Vizsla et Axe Wolf. Ça aussi, une scène très bien faite.
Mm-hmm.
Très bien faite. Axe Wolf, il a réalisé que Paz Vizsla, il est.
Peut-être un petit peu plus.
Ouais, c'est ça. Tu réussis pas à vaincre Paz Vizsla comme tu veux. Là. C'est pas. Écoute, même avec son jetpack et tout, il n'a même pas été capable d'avoir le dessus sur lui.
De l'assommer ou quoi que ce soit. Puis on voit qu'il est vraiment sournois. Là. Je trouve qu'il manque d'honneur, Axe Wolf.
Ouais.
Puis je ne sais pas si c'est ça qui me fait douter du personnage à un certain point, mais je me pose vraiment des questions si c'est pas comme un traître ou qu'à un moment donné, il va faire quelque chose de traître avec de la traîtrise. Là, mais... Bon, on verra bien. Puis c'est là qu'il y a un moment très Jedi.
Oui.
De la part de Grogu. Puis je pense que c'est important de le mentionner. Parce que c'est ils disent, ben, Din qui demande à Bo-Katan, tu vas pas intervenir pour les séparer. Puis Bo-Katan répond, il y a personne qui peut intervenir pour les séparer.
Mm.
Faut comme que ça arrive, tu sais. Puis elle dit, c'était pour arriver à un point, à un moment donné ou à un autre. Fait qu'il faut que l'abcès soit crevé, puis qu'il y ait une petite bataille entre nos clans là, pour qu'on devienne les meilleurs amis du monde par la suite. Puis il commence à se battre, puis à se taper sur la figure, c'est de façon vraiment excessive. Puis complètement random, out of the blue, ben c'est Grogu dans IG-12 qui les sépare. Puis qui fait no.
Non.
Puis là, tu sais, tu fais comme what? Qu'est-ce qui se passe?
Là, Bo-Katan qui dit à Din Djarin, tu sais, tu as bien montré.
Tu l'as bien éduqué, tu sais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Puis lui, il répond, ça vient pas de moi. Donc, c'est là qu'on comprend que l'entraînement que Luke a eu avec Grogu a quand même porté fruit. Ce qui est une bonne chose, là. Mais, tu sais, puis je trouve ça comique quand même de voir que surtout Paz Vizsla va accepter, entre guillemets, d'arrêter de se battre avec un youngling qui a pas de casque, qui a pas encore, tu sais, comme prononcé les mots du Creed, on va dire, là. Qui se ramasse, tu sais, qui est comme... qui a de l'air d'être comme plein de sagesse là, soudainement, là, c'est comme what? Ok. Puis tiens, je vais en profiter pour montrer une meilleure shot du vaisseau un peu là, un skiff à voile dans le fond, là, c'est ça. Là. C'est quand même un vaisseau intéressant à voir.
Je trouve le design est cool.
Il est bien fait, là, effectivement.
C'est sûr que c'est un futur set Lego, ça c'est clair.
Mon Dieu.
Une panoplie de mini-figurines de Mandalorian. Là.
Ouais, c'est ça. Un petit peu plus... Ben, comme suite à cette scène-là, on retrouve justement la forgeronne qui arrive en orbite pour ramener les blessés pour les guérir. Puis quand on a vu cette scène-là, moi, sincèrement, là, je m'attendais à voir là, dans l'espace là, comme des Star Destroyer impériaux sortir de l'hyperespace là, puis faire comme
ça aussi.
Oh boy! Boy, 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 we're in trouble.
Ouais, moi aussi, je m'attendais à ça.
C'est vraiment ça là, que j'ai eu comme... je me suis dit, ah, ça y est, là, ça, that's it.
Ouais, parce qu'ils ont passé quand même quoi, une bonne minute ou deux là, à la montrer, là, en train de traverser là, comme les nuages, là, de, les tempêtes. Et c'est comme une tempête permanente là, qui est au-dessus de la, dans l'atmosphère. Ouais. Là. Puis là, après ça, t'as, comme tu dis, tu vois arriver en orbite, puis tu vois qu'elle arrive jusqu'à le croiseur, puis là, tu dis, ah, il y a quelque chose qui va arriver, c'est clair. Là. Et non. ben, ça laissait aussi présager, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, l'Empire est où? T'sais, dans le fond, c'est comme, hey, comment ça, l'Empire? Parce qu'on s'en doutait que l'Empire allait arriver, là.
Ouais.
Mais c'est ça, non, l'Empire a tout le temps été là. C'est ça qu'on apprend plus loin. Ouais. Mais juste avant. Encore une fois, cette semaine, on a le droit au monstre de la semaine.
Gojira! Le kaiju de la semaine.
C'est le troisième cette saison. Je veux dire, c'est quand même... je sais pas, ils ont une obsession avec ça cette année, cette saison, pour les monstres gigantesques.
Ah ouais.
Mais ouais, un autre qui est caché dans les pierres de Mandalore et qui détruit justement le skiff. Ouais. Et quelques Mandaloriens aussi qui laissent leur peau.
Puis d'ailleurs, attends, il faut que j'essaie de trouver le bon moment. Là. Mais ce que je trouve comique, c'est justement la manière que, sans hésitation, il y a Paz Vizsla et un autre Mandalorien qui fait signe à Paz, qui fait comme... Le Youngling, dans son IG-12, faut qu'on le sauve. Fait que les deux, ils pognent un bras.
Ouais, c'est ça.
Puis, let's go, là, on s'envole, là, puis... c'était... Ouais, non, c'est... J'ai trouvé ça comique, là, de voir comme... OK, on laisse les autres, là, se battre avec le gros ouais, monstre, puis nous autres, on s'occupe autres... de...
Ouais, c'est ça. C'est comme s'ils se disaient, les autres, ils ont leur jetpack, ils vont se pousser, tu sais.
Puis justement, quand il y en a qui se poussent, il y a plein de jetpacks qui explosent pour des raisons qu'on comprend pas.
Oui, c'est...
Oui, je veux bien qu'il y a peut-être des éclaboussures de vaisseaux qui revolent partout à cause du choc du méchant monstre, là. Mais c'est spécial là, comme affaire.
Ouais. Ouais. Puis c'est à ce moment-là qu'il arrive aussi à l'entrée pour aller sous la surface de Mandalore, donc pour la forge. Il arrive à l'entrée de la forge et il se demande justement lorsqu'ils sont à l'entrée de la forge. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui reste entre eux? Ils sont comme bon, ben, c'est ce qui reste de la forge. Puis là, j'étais comme OK, vous allez faire quoi à partir de là? T'sais, on dirait qu'il était comme ah, la forge marche pas. T'sais, oui, ça, on s'en doutait bien. Là. Puis c'est là qu'on entend des jetpacks, puis on pense que c'est encore des Mandaloriens qui arrivent. Et non, ce sont les Mando Troopers, si on peut dire.
Ouais, j'essaie de trouver une bonne shot de la forge, là, excuse.
Ouais, vas-y.
C'est pour montrer un peu aux gens. Là. Je l'ai dans 10 secondes à peu près. Là.
Qu'on a ouais. vu aussi, je pense qu'on l'a vu dans Clone Wars, hein, la forge, si je me rappelle.
En toute franchise, Clone Wars est un peu trop loin dans ma mémoire là, ouais, pour répondre à cette question. Mais ouais, c'est ça. Là, on voit les grandes forges de Mandalore, puis... Bo-Katan qui dit « Ah oui, c'est ici que notre civilisation vivait, puis il a fallu qu'on l'abandonne, puis il y en a qui sont partis, puis là, il y a les autres qui disent « Il y en a qui sont jamais partis.
» Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, comme je disais, c'est à ce moment-là qu'ils entendent des jetpacks qui pensent que c'est d'autres, une autre faction de Mandaloriens. Qui aurait été weird parce que la dernière fois que Din Djarin qui était venu sur Mandalore, il était tout seul, il n'y avait pas personne d'autre. Puis là, tu dis quoi? Ah oui, il y a des factions un peu partout sur la planète. C'est comme.
Okay. Des incohérences dans les histoires de Dave Filoni? Ouais, non.
Mais bon, c'était pas le cas. C'est des Mando Troopers qui arrivent, donc les Stormtroopers de Moff Gideon, qui ont une armure de Beskar. De Beskar, mais qui se font quand même tuer assez rapidement aussi. Ils se font buter assez vite.
Ils se font bien ramasser quand même, ouais, c'est ça. Mais tu sais, on voit qu'il y a un look de justement Ralph McQuarrie là, qu'on revient chercher justement. Puis, comme plusieurs pièces de Beskar, mais aussi beaucoup de ce qu'on appelle des ballistic gaps, là, des trous dans lesquels ils peuvent se faire tirer. Puis c'est probablement là que les Mandaloriens les
tirent. Ils ont le cou à l'air, ils ont aucune protection au niveau des épaules, puis les côtes, c'est tout à l'air. Là, c'est comme. Puis ils n'ont pas non plus l'entraînement des Mandaloriens, il faut dire qu'ils donc, ils peuvent pas se protéger de la même façon.
Puis. Je tiens à mentionner quelque chose à ce point-ci de l'histoire, là, parce que quelques secondes avant ça, Din Djarin dit à Grogu, faut que tu suives. Avec ton petit robot, là, faut que tu nous suives. Puis, dans le passé, on l'a vu, les robots, en général, dans Star Wars, ça bouge pas la chose la plus rapide du monde. Jusqu'à ce qu'on arrive dans Mandalorian la semaine dernière, où on a un battle droid qui, avant, qui était coincé comme du monde, se met à sprinter comme Ben Johnson aux Olympiques de 85. Ouais, c'est comme... Quoi? Ou ben, tu sais, comme le AT-ST de BB-8 là, qui court n'importe comment, après qu'on a eu celui de Endor qui était comme tout coincé aussi. Ça, fait que de le voir comme qu'il faut qu'il suive. Puis là, ben finalement, quand on le voit qu'il commence à rentrer après l'attaque initiale des Mando Troopers, mais il est comme slow un peu. Fait que là, je me pose la question, il va-tu vraiment être capable de se battre avec cette espèce de mec 1.0 là?
Ouais. Ouais, je sais pas. Peut-être. Mm. Donc, encore une fois, je pense que Paz Vizsla montre à quel point son Oui, encore une fois, c'est pas son gun, mais son.
Ouais, son blaster.
Son blaster est très efficace, hein? C'est comme.
Exact.
Il, surtout quand ils voient, tu sais, ils sont 3-4 soldats un à côté de l'autre, puis il fait.
Ben ouais. Puis là,
Donc, c'est là qu'on voit, comme tu disais, au début, on pouvait penser peut-être que c'était une nouvelle version, des Dark Troopers. Mais c'est des soldats. Et on voit aussi que, comme tu le montres à l'écran, que c'est une base de l'Empire, parce qu'eux autres sont comme, c'est quoi ça? T'sais, où c'est qu'on est, là?
Ils les amènent comme à travers les corridors des restants de la forge de Mandalore, puis ils tombent sur cette espèce de base impériale-là, où on voit toutes sortes de choses, incluant justement des TIE Defenders, suspendus comme des chauves-souris au plafond, puis là, tu sais, comme prêt à décoller, pis tout ça, puis t'es comme OK. Bon, ben, on vient de trouver la base de Gideon, puis on comprend pourquoi l'Empire voulait garder Mandalore contre les. Envers et contre tous, là. Puis c'est là qu'on tombe sur quelque chose, on se rend compte, dans le fond, là, que c'était un piège, une attrape pour mettre la main sur, entre autres, le Mandalorien, puis puis tu sais, comme justement, là, réduire les rangs des Mandaloriens, puis les faire que ça soit un piège. Puis, après tout ce qu'on a vu de Din Djarin, qui, à toutes les deux épisodes et demi, utilisait les whistles...
Là, c'est ça que j'allais dire. Là,
le moment... qui est venu de les utiliser, il les utilise pas.
Elle avait comme... plus.
What? Tu peux-tu m'expliquer? Non, il y en a encore, parce que justement, il se fait dire « désarmez-le ».
Il l'enlève.
Puis il enlève cette partie-là. Tu sais, c'est comme « what? » Qu'est-ce qui se passe, là?
Donc, puis c'est bizarre qu'il est tout seul. T'sais, ils ont réussi comme... a fermé Moff Gideon, il a fermé la porte direct quand juste lui a passé, là, puis pff, il est coupé du reste des Mandaloriens. Donc, il est prisonnier de Moff Gideon, et c'est là que Moff Gideon dit à Bo-Katan, « OK, là, c'est là que tu vas me
revenir. » Elle commence par faire son apparition.
Ouais, c'est
avec,
vrai,
avec son casque, avec un casque mandalorien avec des comme trois cornes dessus. Là.
Mm-hmm.
C'est comme I'm the king. You should have been the queen.
Ça fait penser un peu au casque de de, voyons, comment il s'appelait? Celui de Mandalorian qui était comme le bras droit de Dark Maul là, dans Clone Wars, là, qui avait okay. l'icône sur le...
Ouais.
J'ai complètement perdu le nom, là, mais ouais,
je vois. Ouais, je vais te dire oui parce que c'est ça.
Puis, mais Gar Saxon, c'était ça son nom? Ouais.
Ah oui, Gar Saxon, ok. Puis, attends, donne-moi 30 secondes.
C'est là juste... qu'il explique que c'est son armure, c'est comme la nouvelle phase de... Hein. Ouais, puis c'est la nouvelle phase de Dark Trooper. Parce que c'est quand tu le vois marcher, quand tu l'entends, là, ça marche vraiment comme un robot. Là.
OK. Puis là, tu vois, c'est ça qu'il dit. Il dit « désarmez-le », puis là, on voit que le... il met ouais. la main sur les Whistling Birds. Là. Mm-hmm. Là, t'es comme « t'aurais pu toutes les tuer? »
Ouais.
Why?
Do it! Sinon, ça fait pas une fin intéressante, tu comprends?
Ouais, c'est ça.
Donc, pendant ce temps-là, ben c'est ça. Donc, Moff Gideon qui dit à Bo-Katan, là, tu vas me redonner le Darksaber, vous allez vous rendre, blablabla. Bo-Katan qui décide de prendre le Darksaber et de faire une porte de sortie. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'elle a pas décidé d'ouvrir la porte qui bloque Din Djarin du reste, mais de plutôt, c'est comme s'échapper.
De sauver, ouais, ben c'est comme c'est... C'est « Let's escape to fight another day » parce que on va pouvoir le sauver, mettons. Elle ouais, pense non, pas que, sais, mais... elle pense pas qu'il va le tuer. Fait ouais. qu'elle veut essayer d'aller le sauver. Mais ouais, elle fait une Qui-Gon Jinn d'elle-même.
Ouais.
Puis elle décide de percer un trou à travers la porte là, pour essayer de contourner. Puis, pas... Mais c'est parce que si elle avait fait un trou même dans la porte directement, tu sais... Toutes les Mando Troopers qui étaient là, ils auraient pu comme viser dans le trou puis tuer tout le monde ouais, qui sortirait du trou. Là. Ça aurait fait un bottleneck. La porte n'aurait pas ouverte suffisamment grande pour que ça puisse faire de quoi.
Ouais. Donc, ils réussissent tout à s'échapper, sauf Paz Vizsla qui décide de rester justement pour leur donner une chance de s'échapper. Et là, à la fin, il y a juste Bo-Katan et Paz Vizsla. Et Bo-Katan dit « Allez, viens-t'en, là, on y va. » Puis là, il était là « Non, non. » Moi, si
je vais couvrir vos arrières.
Ouais.
Puis
il dit comme si, pour lui, c'est comme si que ça s'arrête là.
Ouais.
Puis donc il élimine toutes les Mando Troopers et là arrivent les
Tu vois qu'il tire tellement avec son arme qu'elle vient au point de surchauffer. Là.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça. C'est un détail vraiment cool à voir, là, que tu le vois plus qu'il tire, plus que ça surchauffe. Là.
Ouais.
Puis qu'à la fin, ça, justement, c'est busté à cause que ça a surchauffé. Et c'est là que les...
Oui? C'est pas parce que c'est busté puis que ça marche plus qu'on peut pas l'utiliser autrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ah, je l'ai manqué. On fait une masse de guerre avec, c'est ça. Fait que, ouais, c'est. Il tient son bout quand même envers et contre tous, puis il réussit à se battre. T'sais, on voit comme. Je sais pas si c'est Jon Favreau qui s'est battu contre tout ce beau monde-là, là, mais tu sais, on voit que Paz Vizsla, c'est un combattant. Mais c'est quand même une brute, là. T'sais, c'est...
Ouais.
Je vais tout vous ramasser, vous pouvez me tirer dessus, je m'en fous, j'ai mon armure de Beskar. Puis il continue à se faire tirer, puis tout ça. Puis on est comme, oh, il va être capable de s'en tirer, ça va être beau, ça va être correct, il va survivre, puis il va toutes les tuer, puis il va pouvoir aller rejoindre les autres, puis tout va bien aller. Ouais. Mais.
Mais Mercieux qui dit, ben, Paz, il aurait même pas passé dans le trou. La grosse
argument. Ouais, c'est vrai.
Que... C'est vrai. C'est un bon point. Il n'aurait peut-être pas passé. Surtout avec tout le backpack qu'il y a. Là.
Ouais, ouais, exact.
Ouais, justement. Là.
Là, on se dit, tu sais, comme ça, là, il a fini de se battre contre tous les Mando Troopers. Puis on est comme, ah! Yes! Yeah! Il va aller rejoindre les autres. Tout va bien aller, tout va bien se finir. Et.
Et non.
C'est là que.
Un autre lien avec la postlogie.
Pom, pom, pom. Les trois gardes prétoriens qui débarquent.
Et leur arme aussi, hein, quand même pas pire. C'est pas les mêmes armes qu'ils ont dans la postlogie, parce que la postlogie, leurs armes n'étaient pas, semblaient pas aussi avancées, mais dans ceci, c'est des armes qui sont capables de détruire le Beskar, en plus. Parce qu'ils réussissent à le poignarder assez, je sais pas combien de fois, mais ils poignardent assez de façon multiple. Ouais, et on le voit qu'il se fait poignarder une couple de fois dans le ventre et dans le
à travers poitrine. À travers la poitrine, oui.
Oui, c'est ça. Et c'est la fin de Paz Vezla.
Écoutez, je tiens à aviser les gens qui nous regardent sur YouTube présentement que la prochaine image sera légèrement graphique ou en frais de Star Wars. Donc, et voilà. À travers l'armure et tout, là, c'est let's go. Puis en même temps, ça nous donne un autre regard aussi sur les casques de Praetorian. On voit que c'est les casques sont très similaires aux gardes du Sénat de l'épisode 2. Jusqu'à un certain point, je trouve. Là. J'aime bien ce design-là. Puis ils ont tous une espèce de poche. C'est pas un sac banane, là, c'est une espèce de sac messenger, de sac de messager sur la cuisse. Là. T'es comme what?
Pourquoi? C'est pour les collations.
C'est ça.
Et voilà, tu vois, Maître Manu qui dit « En fait, ça fait un lien entre les Imperial Guard et les gardes prétoriens de la postologie. » Et c'est vrai, t'as tout à fait raison. Et c'est ça, tu vois, là, écoute...
Ça en prend trois sur lui pour le tuer quand même.
Écoute, là, celui qui est en haut, il le poignarde comme dans le derrière du cou, là.
Ouais.
Puis, tu sais, il tient encore, là, c'est comme... mais bon, c'est la fin de Paz Vizsla, je ne sais pas comment son fils va réagir parce qu'il va apprendre que son papa est mort. Mais c'est ça. Donc, c'est là-dessus que se termine l'épisode. Hein? L'épisode se termine avec la mort de Paz Vizsla. Et tout est en place pour la finale la semaine prochaine.
Avec les trois gardes prétoriens qui, tu sais, comme qui marchent in the sunset, là, avec le coucher de soleil.
Écoute, ils ont été là, quoi, 2 minutes? On les a vus 2 minutes.
Ah, sérieux, à peu près 1 minute, là, le temps du
combat. Ça n'a pas été long. Comme, on rentre, on tue, on sort. Et voilà.
Puis ils s'en vont, puis c'est là qu'on mettrait la musique. Là. I'm a poor Mandalorian.
Et je suis sûr qu'on ne va même pas les voir, les gardes prétoriens. C'est fini. On ne va même pas les voir la semaine prochaine. Après moi, c'était juste un...
C'est je ne sais pas s'ils vont pas revenir.
Yes!
Ouais, c'est ça.
C'est... Sérieux, là, il y en a pour leur argent dans cet épisode-là. Là,
il va y avoir plein de figurines.
L'armure de Moff Gideon, les gars prétoriens, écoute, Hasbro.
Le probe droid sur Coruscant.
IG-12 avec Grogu, là, écoute, là, c'est chiching.
Ça promet. Tout le conseil. Hein,
ouais, c'est ça. Dark Shadow Council. Ox, puis tout ça. Là. Maître Manu qui demande, va-t-on revoir Luke ou Ahsoka dans le dernier épisode? Moi, je crois que non. Je crois qu'il n'y a aucun lien pour voir Luke et Ahsoka. Luke, dans la saison 2, c'est à cause de Grogu. Hein. Tu sais, la saison Grogu, la mission, c'était d'amener Grogu au Jedi.
Mm-hmm.
Mais là, Luke et Grogu n'ont pas Grogu, mais je veux dire, Luke et Ahsoka n'ont pas, d'après moi, ils n'ont pas d'affaires là. Peut-être
Ahsoka. Oui, parce que avec Baylon et tout le kit, c'est comme sur les traces d'eux. Elle a suivi comme le Shadow Council jusque sur Mandalore.
Ouais.
Parce qu'elle suit les traces vers Tron, fait que ça se peut qu'en suivant les miettes, elle se ramasse là, ou que Grogu va faire une méditation dans la Force pour l'appeler, parce qu'en lui disant « On a besoin de 2 sabres laser, et puis moi, j'en ai pas pantoute, viens m'aider.
» Ouais, puis je veux dire, Bo-Katan puis Ahsoka, on le voit, on l'a vu dans la saison 2, qui est encore... Il y avait encore de la communication entre les deux, là, parce que c'est Bo-Katan qui a dit à Din Djarin où trouver Ahsoka. Moi, je pense qu'on a plus de chances de voir Tron que Luke ou Ahsoka. Je serais pas surpris que ça finisse avec Tron et je vais te dire pourquoi. Tout est planifié. Hein. Ils ont annoncé l'acteur de Tron le week-end dernier.
Ouais.
Ils l'ont montré dans la bande-annonce de Ahsoka. Donc, d'après moi, la dernière scène de la finale, ça va être Tron qui arrive avec comme la flotte impériale.
Puis encore Gideon qui va se faire ramasser, là.
C'est ça. D'après moi, c'est la fin de Gideon. On le verra plus après la saison 3. Et okay. Tron, c'est lui qui devient comme le vilain principal de Ahsoka, mais aussi pour le film de Dave Filoni. Je sais qu'ils ont dit qu'il y avait une quatrième saison de Mandalorian qui était écrit déjà. Donc, j'imagine que le film de Filoni, ça va être après ça. Mais c'est ça. Moi, je serais pas surpris là, que ça finisse comme ça avec Tron, puis on voit la flotte impériale, puis bang.
Le Chimera.
Ouais, c'est ça. Puis tout ce qu'on voit, il est dans son trône, pas dans son trône, mais sa chaise de commandement. Là.
C'est ça.
C'est sombre, puis là, on va juste voir deux yeux rouges allumés. Là.
Yeah.
Il va comme ça si serait... juste. Ça serait trop hot, man. Écoute, si c'est ça, là, moi, je suis comme, oh my god.
Ça serait le fun. Maître Manu qui dit Gideon va s'en faire donner toute une claque derrière la tête par Tron.
Ouais, je suis pas surpris.
Ça pourrait être bien. Puis, tu sais, comme tu vois, il y a dans les autres commentaires qu'il y a eu, Grogu aux commandes du droïde IG-12, on pourrait vraiment s'en passer. C'était pas obligé de nous imposer cela. Puis, Maître Manu qui lui répond en disant je suis pas d'accord avec toi, le rangé. D'un, ça démontre que Grogu évolue et qu'il est fort dans la force, en plus de donner une petite touche d'humour.
Ouais.
Mais, tu sais,
ouais, ben écoute, on était tannés de le voir se promener dans son genre de berceau flottant. Là,
ouais, c'est ça. Fait que c'est vrai que c'est une évolution à quelque part, là, mais ouais, c'est. Serait bien. Ce serait le fun qu'il pousse des jambes, même année, je sais pas, là, même si Yoda, on s'entend qu'il devait pas bouger vite non plus. Là. Mais quand je regarde cette art-là, j'ai l'impression que. Je suis pas sûr qu'il avait toujours prévu de le mettre dans le torse de IG-12. Parce que sur celle-là, on voit qu'il n'y a pas la tête. Fait que je sais pas s'il était peut-être pas censé comme être sur la tête pour tout conduire le bonhomme. Là.
Ah ben oui, t'as raison. J'aurais pas marqué qu'il n'y avait pas la tête.
Ce qui aurait potentiellement aussi de l'allure. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est... Puis aucune scène post-crédit. Là. Tu sais, ça aurait été une belle place pour mettre une scène post-crédit avec un petit bonhomme bleu qui rouvre ses yeux rouges. Là.
Ben, peut-être, comme Maître Manu dit, on va peut-être le voir en scène post-crédit dans le prochain épisode.
Mm-hmm.
Il y en a eu une scène post-crédit là, en dernière saison avec l'introduction du livre de Boba Fett. Donc, peut-être. Donc, c'est ça. Je veux dire, on a pas mal fait le tour. On va voir comment tout va se jouer la semaine prochaine. Mais moi, mes prédictions, c'est que Gideon ne survit pas à la troisième saison. Et Tron, on va voir Tron. Parce que sinon, il ne l'aurait jamais montré dans la bande-annonce d'Ahsoka. Si t'es pas pour le montrer dans Mandalorian, il ne l'aurait jamais montré.
Parce que ça aurait cassé la surprise, tu penses?
Ouais. Exactement. Parce que tu veux garder la surprise que quand le monde le voit dans Ahsoka, t'es comme oh my god.
Ouais.
Mais là, on l'a vu d'eau dans la bande annonce officielle, mais ceux qui ont assisté à la présentation d'Ahsoka aux célébrations, ben, ils ont montré le visage de Tron. On l'a vu. Donc,
si on le montre
un peu sur Internet, vous pouvez.
On le montrera pas parce que ça semble être le Banhammer Blueberry le Blueberry Banhammer Day aujourd'hui là. Toutes les places puis les personnes qui ont posté une image qui avait ou du contenu qui avait rapport à ça semblent se faire taper ses doigts ouais, sur
Facebook,
les réseaux sociaux
sont très agressifs cette semaine là. Donc ben écoutez, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir. N'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires sur l'épisode. Donc, je sais que comme vous, le monde qui nous a écouté live l'ont fait dans le chat. N'hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux. Juste rappeler qu'on a des petits pépins avec Facebook ces temps-ci. Comme ça bien dit, on a sûrement montré quelque chose qu'on ne devait pas et Facebook n'a pas aimé ça. Ils nous considèrent comme des fake news. On attend que le compte soit réinstauré. Mais en attendant, on est très actifs sur Twitter et sur YouTube. Nos épisodes sont toujours disponibles. Ceux qui nous écoutent en podcast, les épisodes sont toujours disponibles en version podcast. Donc, c'est juste notre page Facebook qui est bloquée temporairement. Mais vous pouvez laisser vos commentaires. Ça va nous faire plaisir d'y lire et d'y répondre si vous avez des questions. On rappelle juste, s'il vous plaît, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La cloche, le pouce, partagez les épisodes. Ça nous aide énormément. Prochain épisode de Star Wars en direct, le prochain, ça va être la finale de Mandalorian. Donc, la semaine prochaine, qui va probablement être fait par nos amis, nos collègues français. Donc, n'hésitez, ne manquez pas cet épisode sur la finale. Et nous, on va être de retour probablement dans deux semaines avec le retour des Quoi de neuf Star Wars. Il y a eu beaucoup de nouvelles au Star Wars Celebration. Et je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut revenir pour discuter plus en profondeur qu'on va probablement faire. Et il va sûrement y avoir d'autres nouvelles qui vont sortir d'ici ce temps-là. C'est ça. Donc, de la part de Sébastien et moi-même, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.